Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, il est 19h30 précise. C'est l'émission du syndicat des travailleurs de l'éducation de la Seine-Saint-Denis, donc le STE 93 CNT. Le deuxième lundi du mois, dans le cadre donc du créneau Le Monde Merveilleux du Travail, qui est l'émission hebdomadaire des syndicats CNT de la région parisienne. Ce soir à l'antenne, Nico, Émilie.
Bonjour.
Greg.
Salut.
Et on attend d'une minute à l'autre Olivier qui sera l'invité de la soirée, Olivier Azam, qui est le réalisateur du film Grand Puits et Petite Victoire, un film qui revient sur ce qui s'est produit il y a un an, à savoir une grande mobilisation contre la réforme des retraites, mais une mobilisation qu'on a perdue. Alors lui, il a une vision peut-être un peu plus optimiste, un peu plus positive que nous, donc ça sera intéressant d'échanger là-dessus. Un film qui devrait sortir au cinéma dans peu de temps, je ne sais pas où on en est en termes de distribution, il nous le dira. Donc on vous propose une émission en plusieurs temps pour commencer... Un point actualité des luttes en particulier dans l'éducation, puisque nous sommes un syndicat d'éducation, et puisque nous sommes dans une période particulière, c'est celle de la rentrée scolaire. Ensuite, on vous proposera peut-être un petit arrêt sur deux bouquins qu'on a bien aimés et qui sont sortis il y a peu de temps, dans deux registres tout à fait différents. Une bande dessinée sous forme de roman graphique qui évoque la figure de Tina Modotti, photographe des années 20-30, et un livre sorti tout récemment le 8 septembre qui évoque le système Le Pen et les réseaux du Front National, ou le FN version Marine Le Pen et les réseaux de radicaux qui hantent les couloirs et qui conseillent l'actuel chef. Et enfin, à partir de 8h et jusqu'à presque 9h, on recevra Olivier, on évoquera avec lui bien tout ce qui s'est passé à Grandpuits dans la raffinerie. Et on essaiera de dresser un bilan de plusieurs semaines, plusieurs mois de mobilisation l'an passé. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Quel bilan en tirer? Et en quoi est-ce que ça peut préfigurer quelque chose de positif pour la suite? Bonsoir, Radio Libertaire, 20h, Grand Puits et Petite Victoire, un documentaire d'Olivier Azam. Alors Olivier, pourquoi Grand Puits et Petite Victoire?
Bon, alors Grandpuits, j'ai pas choisi, c'est comme ça, c'est parce qu'en fait c'est le nom de la raffinerie de Grandpuits qui est à côté de dans la région parisienne, dans la Seine-et-Marne. En fait, on y allait parce que simplement ça faisait un moment que les médias étaient là, on voyait tout ça à la télé, et puis nous on était dans les manifs, et puis on s'est dit bon, on va pas rester dans les manifs, on a envie d'aller voir un peu ce qui se passe sur quelque chose qui est pas trop loin, et on a fait comme tous les journalistes, on est parti à 50 bornes de Paris, c'est-à-dire pas trop loin, pour se ramener là-bas. Mais comme on est un peu branquignol, en fait on a le jour où on est arrivé, c'était le jour où ils se sont fait sortir, là, où il y avait les, c'était le 22 octobre 2010, où il y avait le moment le plus chaud dans le mouvement, c'est-à-dire le moment où la réquisition a été prononcée et où ils ont envoyé la garde mobile pour aller les forcer en fait à travailler, ce qui était quand même un truc un des moments forts de cette grève. Et nous, comme on était parti bientôt le matin et qu'on s'est perdu, on est arrivé juste après la bataille en fait. Donc on a raté l'action, mais on s'est retrouvé donc à un moment où quand on est arrivé avec des gens qui venaient de prendre sur la gueule quoi, donc qui étaient dans un état de choc assez important. Et l'ambiance était assez particulière. Et puis il y avait beaucoup de journalistes, on n'était pas les seuls évidemment. Et il y avait une ambiance qu'il y a dans ce genre de, que vous connaissez tous, quand, dans ce genre d'action où il y a eu un truc comme ça, où il y a beaucoup de médias, donc il faut parler aux médias, en même temps les gens sont sous le choc, il y a les porte-paroles qui sont là et tout. Donc on a laissé décanter, on s'est pas trop fait remarquer. Et puis quand tout ce petit monde était parti, les JT avaient fait leur boulot du jour, ils étaient allés ramener l'information dans l'urgence. Après, il y avait plus personne. Donc nous, on est restés, et puis on est restés pendant les 10 jours suivants, quoi. C'est-à-dire qu'on est venus quasiment tous les jours. Et là, on a vite tissé des liens, parce qu'en réalité, en fait, c'est pas très compliqué, quoi.
Donc vous êtes venus à partir du 22 octobre, et durant une dizaine de jours, c'est-à-dire sur la fin du mouvement.
Ouais.
Il se passait quoi à Grandpuits de début septembre au 22 octobre?
Bah, il y a eu, alors bon, après j'ai compris un peu ce qui se passait, bien que c'était assez complexe. Il y a eu un début de, il y a eu la grève, bon, partout, donc, évidemment, et eux ils se sont mis en grève, c'est-à-dire qu'ils ont dit au patron de Grandpuits, qui s'appelle Otero Delval, ils lui ont dit, bon, ben voilà, nous on veut poser 48 heures de grève. Ils ont fait remonter ça à Total, au siège, et puis là, on leur a dit, non, pas 48 heures de grève. Bon, il faut dire que c'est un peu particulier, hein, parce que c'est un site Seveso 2.
Alors, un classement Seveso, tu peux nous expliquer?
Alors, Seveso, on se rappelle...
On est 10 ans après l'explosion de l'usine AZF de Toulouse.
Ouais. Seveso, c'était avant la première catastrophe qu'il y avait à la fin des années 70 en Italie, qui avait établi des nouvelles normes, et derrière, les normes se sont encore... resserrer les normes de sécurité, on est arrivé à Seveso 2. Bon, ce qui fait qu'il y a des tas de normes de sécurité qui sont tout à fait justifiées, bien sûr, puisque c'est quand même que des produits très dangereux, ils manipulent des produits chimiques très 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 dangereux. Mais c'est aussi, ça donne quand même beaucoup de contraintes dans les actions syndicales, dans tout ce qui est préavis de grève, etc. Parce qu'il faut en permanence assurer la sécurité du lieu, pour des raisons évidentes. Donc c'est tout un truc qui, dans lesquels les syndicats sont tout à fait responsables. Ils disent, bon, ils n'arrêtent jamais vraiment la raffinerie. La raffinerie s'arrête, c'est-à-dire qu'ils ne livraient plus, mais il faut maintenir un minimum de sécurité. Il ne faut pas éteindre tout ce qui chauffe, etc., pour pas que ça pète, quoi, simplement. Donc, il y a ce qui s'appelle une réquisition d'usage. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en grève, mais qui vont quand même assurer le minimum.
Et ça, ça a eu lieu pendant
Et ça, c'est normal, ça. Si tu veux ça, c'est dans tous les mouvements, c'est comme ça. Et là, ce qui a été un peu fou, c'est que comme ils n'ont pas voulu accepter la grève, la direction totale, ils ont forcé, finalement, les syndicats à aller plus loin. C'est un gars qui ne voulait pas forcément aller plus loin. Donc ils sont allés plus loin, et comme ils n'ont pas voulu accepter cette grève de 48 heures, ils ont dit, ok, bon, on pose des consignes de sécurité, ça veut dire qu'on se met en position de grève longue durée, ça veut dire qu'il faut fermer certains trucs et tout, c'est tout un tas de procédures. Et finalement, ils ont été enclenchés dans une grève qui était beaucoup plus dure. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là que cette grève dure, en fait, chez les jeunes syndicalistes qui étaient là, chez les jeunes grévistes, est portée par le mouvement national. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là qu'on voit qu'il commence à se développer un mouvement de solidarité nationale.
Alors, quand vous arrivez le 22 octobre 2010, donc il y a presque un an, à Grandpuy, combien de raffineries sont en grève en France ?
Tu me poses des colles. Je pense qu'ils étaient... quand ils ont commencé, je pense qu'il y avait... les premiers, ça a été... je veux pas dire de bêtises, parce que j'ai pas tout le truc en tête. Mais il y a eu Donge, en gros, les plus virulents, c'était Donge et Grandpuy. Et en fait, à partir de ce moment-là là, que je décris, c'est-à-dire de ce moment où Total refuse, ça tombe en domino, quoi. C'est-à-dire que toutes les raffineries, petit à petit, se mettent en grève. Pour quasiment être toutes en grève, sauf peut-être une et encore, non, même celles qui étaient en danger, parce qu'il y a des raffineries qui ont fermé après, hein, qui étaient en train d'être fermées par Total, donc pour cela ils étaient beaucoup plus faibles. Mais très vite, ça tombe en domino, je crois qu'il y a à peu près une douzaine de raffineries qui se mettent toutes en grève. Il y a les histoires des dépôts, alors il y a beaucoup de confusion, parce qu'il y a les dépôts aussi qui sont pas les raffineries, dans lesquelles il y a du pétrole, donc il y a les autorités qui essayent de débloquer d'abord les dépôts, qui sont plus faciles à débloquer, mais faire redémarrer la raffinerie, c'est beaucoup plus compliqué.
Donc Grandpuy, c'est seulement une raffinerie, ce n'est pas une raffinerie,
c'est une raffinerie dépôt. Et il y a un dépôt aussi.
D'accord.
Mais si tu veux, on a vu dans le mouvement que les autorités ont rapidement pu débloquer des dépôts, mais que l'enjeu important, c'était à long terme, les raffineries. Parce que les raffineries, en arrêtant de fonctionner, ils ne produisaient plus, et très vite, on commençait à basculer au bout de ces 10 jours de grève. Dans une situation qui commençait à devenir compliquée pour le pouvoir. C'est-à-dire que là, il fallait détourner la grève. Et il n'y avait pas 15 000 moyens. En fait, il y en avait un qui commençait à être utilisé, c'était d'importer du pétrole déjà raffiné d'ailleurs. Et alors là, il y a eu beaucoup de propagande aussi pour faire croire que tout allait bien. Hein. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous racontait dans les médias. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements de solidarité syndicaux, notamment en Belgique, qui bloquaient des dépôts, qui étaient... assez peu relayé hein, par la presse. Donc une bagarre comme ça s'est entamée, un bras de fer, notamment aussi sur Normandie, je crois, où ils ont envoyé carrément des jaunes par la mer, qui sont débarqués pour aller essayer de remettre en route les choses. Et voilà, chez les plus motivés, c'est-à-dire essentiellement à Grandpuy, mais aussi, je crois, à Donge, bien sûr, et à Petit Couronne, enfin dans les raffineries qui étaient les plus fortes. Ça a très vite braqué, quoi. Tous les gens qui étaient en grève, ils ont compris qu'ils étaient au centre d'un truc important, quoi. Et je crois que le moment où les gardes mobiles ont été envoyés pour les réquisitionner, c'est-à-dire pour forcer des grévistes à rentrer dans la raffinerie et à se mettre à bosser alors qu'ils étaient en grève, ce qui est quand même pas très courant dans l'histoire syndicale, à partir de ce moment-là, il y a eu un double effet, quoi. C'est qu'à la fois, ils ont, ça a remotivé la grève, et en même temps, ça a porté un mouvement de solidarité nationale que je crois très très rare dans l'histoire récente, en tout cas moderne ou du siècle dernier, dans les grèves en France, quoi.
Donc justement, ce mouvement de solidarité nationale, tu nous en parles un peu, puisque dans le film qui est sorti que les souscripteurs ont reçu, comment tu dis ça, en avant-première ou
ouais, c'est ça. Une
sorte de...
Non, parce que c'est comme ça qu'on finance son film, mais ça on en parlera plus tard, c'est encore un autre sujet, mais
on va en parler. Donc il y a tout un passage où on voit les grévistes qui ouvrent les enveloppes dans lesquelles ils reçoivent beaucoup de chèques ou des paniers pour aider à tenir le piquet de grève et ne pas cesser la grève.
Bah, y a le premier truc qui est le réflexe. Nous aussi, on arrivait à nos merguez, hein, comme tout le monde. Mais bon, on s'est aperçu qu'il y avait des milliards de merguez déjà. Alors il y a des tas de gens qui amènent de la bouffe. En fait, c'est pas forcément ce qui a besoin le plus, mais c'est super sympa parce que c'est une façon aussi de symboliquement de marquer quelque chose. Et donc, ça veut dire que le piquet est alimenté. Donc ça, c'est toujours très sympa. D'un autre côté, il y avait aussi des gars qui faisaient des tournées, qui ramassaient des trucs ailleurs. Bon, tout ça, il y a un soutien moral important qui passe par tous ces gestes symboliques. Et puis, il y a eu un vrai soutien financier. Et là, je te dis, c'est quand même assez impressionnant parce que le bilan qui a été... c'est pour ça que quand je parle de petite victoire dans le film, ça paraît... c'est tout le débat, je pense, qui ira autour du film. Est-ce que c'est une défaite? Est-ce que c'est une victoire? Mais ces victoires-là, elles sont totalement effacées au fur et à mesure par à la fois la propagande et puis très vite dans l'histoire, elles sont effacées. Et par exemple... quasiment pas un journaux, peut-être l'UMA et quelques sites, ont repris une info qui a été publiée juste à la fin du mouvement, c'est que la caisse de grève a rassemblé 210 000 euros.
Oui, c'est ce qu'on
210 000 euros à peu près. Et que ces 210 000 euros non seulement ont permis de payer les salaires des grévistes, de tous les grévistes, 180 grévistes.
Il y avait 180 grévistes sur combien de salariés sur le site?
Alors 180 peut-être pas tout le temps, hein, mais ouais. En gros, si tu veux, déjà tous les salariés en 3-8, c'est-à-dire ceux qui, les raffineurs, quoi, ceux qui tournent les vannes, eux étaient en grève quasiment tous. Et après, ceux qui étaient non-grévistes, tu peux peut-être multiplier par deux, c'est surtout les cadres et les gens qui sont dans les bureaux, quoi, pour des raisons évidentes. Mais donc, si tu veux, cet argent a été redistribué aux grévistes, mais au-delà de la raffinerie Grand Puy, et de façon intersyndicale, c'est ça qui est intéressant. C'est pas les boutiques qui ont redistribué dans leur boutique. Ça a été redistribué au-delà. Ça a été redistribué à d'autres raffineries qui avaient eu moins d'argent, mais aussi en dehors des raffineries. C'est-à-dire qu'ils ont pu redistribuer symboliquement des fois, mais très largement. Et alors de façon, alors ça c'est plutôt un geste symbolique aussi, mais enfin qui est quand même réel. La plupart des salaires qui ont été touchés, qui ont été perçus par les grévistes, ont été en partie, ils ont donné une partie de leur salaire au Secours Populaire, au Resto du Cœur. Après, on peut discuter de pourquoi ce choix-là, mais enfin, bon, ils ont voulu faire un geste symbolique comme ça pour dire, bon voilà, on sait que vous nous avez aidés, c'est pas pour notre gueule, et surtout dès le départ, personne n'imaginait dans cette grève qu'ils allaient toucher leur salaire à la fin, quoi. Parce que c'était pas un conflit comme il peut y avoir parfois de corpo, tu vois, c'était un conflit où ils se sont sentis portés par la France entière sur la réforme des retraites. Et là, ils ont très vite compris, et d'ailleurs ils ont absolument rien revendiqué du côté de leur salaire au niveau du patron à la fin, ils ont compris que c'était une lutte qui dépassait les luttes syndicales habituelles de boutique.
Donc la reprise du boulot.
Alors là, ben ça on le voit bien dans le film, hein, parce que c'est toujours des moments très forts, hein, dans les grèves, la reprise. C'est toujours un moment dramatique, quoi. Moi j'en ai encore la chair de poule quand j'y pense, quoi. Parce que il y a une telle euphorie dans les mouvements de grève comme ça, quand un piquet tient pendant aussi longtemps, qu'il y a des liens qui se tissent, où les gens sont dans une ambiance quasiment euphorique tout le temps, quoi. Quand même, on le voit un peu dans le film à la fin. Enfin, moi ce qui m'a frappé dans ce groupe, c'est l'énergie de la jeunesse d'ailleurs des gars, parce que c'était que des gars qui avaient entre 30 et 35 ans, donc qui avaient 10 ans de boîte, mais qui avaient jamais vécu une grève aussi importante. Donc une énergie formidable, que je crois on ressent pas mal dans le film, une euphorie importante. Et donc toute cette énergie qui monte pendant la grève, là elle retombe parce qu'il faut rentrer. Et alors ce qui est toujours impressionnant, c'est que c'est voté, et dans la minute qui suit, il faut rentrer, quoi. On déblaye tout, et puis 5 minutes après, ça y est, l'usine repart, quoi. Avec des tas de difficultés, hein, justement, parce que c'est arrêté longtemps, etc. Mais en tout cas, symboliquement, ça c'est un truc assez fort, quoi. Donc ça a été un moment très fort, qui a fait qu'ils ont vécu ça sur le coup, vraiment comme la plupart des gars avec qui je parlais, quoi. Je n'ai pas parlé à tout le monde, mais enfin ceux qui étaient là, quoi, ceux avec qui j'ai noué contact, eux, ils ont vécu très vite ça, comme ils se sont dit merde, on va se faire lapider dans les prochaines manifs, parce qu'il y avait la manif qui était, il y avait encore des manifs de programmés qui étaient un peu la manif d'enterrement.
Manif du 7 novembre.
La manif du 6 ou 7, je sais plus.
7 novembre.
Et après il y en avait encore une derrière, mais en fait et celle-là, 22, elle était elle était un peu voilà, c'était un peu déjà. Donc ils se sont dit on va pas y aller quoi. On a trop peur. Et puis finalement, bon, je les ai un peu motivés, franchement, mais pas que moi. Il y avait d'autres gars qui étaient un peu plus, qui disaient allez-y, les gars. Mais souvent des leaders syndicaux, quoi. Il faut pas, quand même, toi, faut pas prendre ça sur la gueule comme ça. Donc ils y sont allés quand même, mais avec l'angoisse quand même que les gens comprendraient pas qu'ils aient repris le travail. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'ils ont été très très bien accueillis dans la manif. Il y a eu même, ils ont fait un grand panneau avec des remerciements, etc. Et en fait, pendant toute la manif, ils ont été acclamés. Et à l'arrivée, je sais plus, je crois que c'était à la République, l'arrivée, il y a eu une haie d'honneur qu'on voit un petit peu dans le film, mais qui est assez exceptionnelle, quoi. Tous les gens, je pense que beaucoup de gens en ce moment-là, et c'est pour ça que je pense qu'il faut jamais oublier ces luttes-là. Je crois qu'une partie de la France en lutte a compris que c'était un symbole, mais en tout cas que c'était eux qui étaient les plus forts à ce moment-là, et que c'était donc c'était eux qui portaient la parole de cette grève, parce que bien sûr c'est toujours leur risque quand on fait un film, c'est de faire croire qu'il s'est passé que ça, mais il s'est passé des tas de trucs partout en France. Mais disons que ils ont été quand même sous les projecteurs des médias. Et que ils ont été porte-parole à un moment donné quand même de ce mouvement de grève. Et je crois que ça a été très bien compris par les gens globalement, par les gens qui ont manifesté, etc. Et ça, c'est pour moi, c'est une victoire importante, quoi, sur laquelle il faut mettre le doigt, quoi.
Donc dans les petites victoires, tu mets en avant la caisse de grève, la dignité retrouvée. Et qu'en est-il des assemblées générales ? Est-ce qu'elles étaient réellement souveraines ou la parole était...
Il n'y a jamais eu de... Non, mais c'est toujours pareil, si tu veux, il y a toujours... Ça, on peut toujours... Mais ça, c'est vrai, c'est même vrai à la CNT. C'est vrai partout. Je veux dire, dans tous les...
Non.
On en discutera off. Non, mais c'est vrai dans tous les groupes. Il y a toujours des gens qui parlent, qui prennent la parole plus facilement, qui prennent le pouvoir quelque part à travers leur position qu'ils arrivent à prendre en groupe dans une assemblée. Il y a des gens qui parleront jamais dans une assemblée et c'est pas pour autant les plus cons, quoi. Mais donc, ça, c'est une règle. Alors évidemment, les porte-parole et les leaders syndicaux, c'est leur boulot, ils sont exercés pour ça. Pour eux, c'est évidemment eux qui parlent le plus et évidemment qu'ils ont une influence, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Mais, si tu veux, là, ce qui m'a frappé, c'est que jusqu'à la fin, jusqu'au dernier vote, il y avait aucun doute sur le fait qu'il fallait poursuivre la grève, quoi. Il n'y a pas eu de discussion très compliquée, ils étaient tous d'accord, et il y avait deux syndicats, dont un qui est moins virulent que l'autre, je voulais choisir, mais il y avait la CGT et la CFDT, et ils ont été d'accord jusqu'au bout là-dessus, quoi. Donc ça, c'est un point quand même assez fort. Là où ils ont lâché, c'est quand finalement la loi a été votée, quand au lendemain de la manif, ah ben non, alors tu vois, c'est la manif du 6, où effectivement on avait mesuré... du 6 ou du 27, enfin je sais plus, bon, peu importe, mais après cette grande manif, on a mesuré qu'il y avait un petit peu moins de mobilisation, que même s'il y avait quand même énormément de mobilisation, mais surtout que les autres raffineries étaient en train de tomber une par une, quoi. Et ça, ça a été quand même, si tu veux, à partir du moment où les raffineries ont fini par tomber, c'était les derniers, quoi, qui s'étaient, il restait Donge et Grand Puy, et là ça devenait compliqué de porter tout seul cette histoire.
On va revenir sur les pratiques de lutte et sur le fait que Grand Puy soit devenu un symbole. Il y a peut-être un questionnement là-dessus aussi. Est-ce que tu nous diras après ce que t'en penses, mais est-ce que les gars sur place n'ont pas eu l'impression d'être un peu trop mis en avant? Si je résume, hein, c'est facile de faire un chèque de 100 ou 150 euros et de dire aux autres, allez-y les gars, on vous soutient, on est tous derrière vous, tout en continuant toi-même à aller au boulot parce que tu considères que c'est un peu
le cœur, c'est exactement le cœur du problème. Tu mets le doigt, vous mettez exactement le doigt sur le problème, mais ça, si tu veux, à partir du moment où il y a eu un soutien énorme, une caisse de grève énorme, ça veut dire qu'il y a eu quand même une grève par procuration, quoi. Mais si tu veux, c'était pas inéluctable. C'est déjà pas mal qu'il y ait eu ce soutien-là. Parce que pour beaucoup de gens, c'était, il y a des profs qui le disent beaucoup d'ailleurs, ils disent mais nous quand on fait grève tout le monde s'en fout. Alors ça c'est leur problème, ça rejoint le début de l'émission, qui disent nous ça on s'en fout. Alors bon, c'est peut-être une façon de se dédouaner de ça et de dire on fait pas la grève parce que tout le monde s'en fout. Mais là vous tenez le pétrole et donc du coup ça va avoir du poids, etc. Donc ça c'est vrai que c'est le vrai cœur du problème, parce qu'en réalité il suffit pas de déclarer partout, de clamer grève générale. On en parle dans le film. Il faut que ça vienne pas d'en haut, quoi, la grève générale, jamais, quoi. Et dans l'histoire, c'est jamais venu d'en haut, quoi. Même s'il y a un mot d'ordre, il faut qu'il y ait une force dans le pays qui décide à un moment donné de plus aller bosser, quoi. Et alors, il y a ça, il y a les gens qui se sont pas mis en grève. Et effectivement, c'est ça qui a manqué, quoi. Alors, pour des tas de raisons, d'ailleurs, hein, il y a des tas de justifications aussi, hein, qu'on essaye d'expliquer dans le film aussi. Par exemple, les camionneurs, pourquoi c'est plus compliqué pour eux aujourd'hui, les routiers, on a expliqué ça dans le film, pourquoi c'est plus compliqué pour eux qu'il y a quelques années de se mettre en grève, parce qu'on leur retire leur permis, parce que Sarkozy a durci les lois en appliquant la règle des lois, par exemple, de circulation, en disant si vous bloquez la route, eh ben, on fait sauter votre permis. Donc il y a un tas de... Dans la guerre sociale qu'on vit au jour le jour, ils marquent des points quand même en face. Ils font de plus en plus d'entraves à la grève. Donc il y a des tas de raisons objectives. Il y a des raisons qui sont peut-être des manques de motivation, mais ça c'est plus difficile à cerner, quoi. Et puis au final, bah, effectivement, il manque... Ça fait râler, parce que quand on suit un mouvement de l'intérieur comme ça, et ça vous le savez tous ici, mais on voit très bien qu'il manque très peu de choses en fait pour que ça bascule. Il manque toujours très très peu de choses. Et là, il a manqué 3 jours.
Nous, on pense qu'il n'a pas manqué grand-chose, en effet. Ça, c'est une des analyses qu'on dresse du mouvement de l'an passé. Il n'a pas manqué grand-chose pour que ça s'embrase et pour que ça prenne. Dès le mois de juin, on clamait, mais on s'en est tenu à l'incantatoire, comme trop souvent. On clamait qu'il fallait faire 4, 5, 6 jours de grève d'affilée, plutôt que 6 ou 7 journées éparses. Au bout du compte, on a bien fait les 7 ou 8 journées de grève, de grandes journées de mobilisation, les marches qui étaient plutôt plaisantes, parce qu'il y avait tellement de monde dans la rue qu'on était obligé d'emprunter deux itinéraires. Donc tout ça, c'était plaisant, ça mettait du baume au cœur, mais dans l'éducation, par exemple, on était beaucoup moins à faire grève au sein des effectifs des Bahuts qu'en 2003. Il s'est passé, il y a eu un traumatisme dans l'éducation nationale, c'est la défaite du mouvement de 2003. Là, sur une salle de prof de 50 à 60 personnes, tu devais avoir 10 ou 12 grévistes maxi. Pas plus, avec des profs, d'autres collègues qui disaient « Écoute, ça sert à rien que je fasse grève, j'irai faire un tour à la manif, mais je serai là le matin tôt, parce que de toute façon, les élèves, eux, ne viendront pas, donc je serai présent, je touche mon salaire, et puis à 8h20 ou à 9h20, je m'en vais et je rejoins la manif. » Donc ce qu'on a vu sur le dernier mouvement, c'est qu'il y a eu plus de monde dans la rue qu'en 95, mais moins de grévistes. Qu'on a perdu.
Tout le monde a une responsabilité là-dessus.
Ah oui.
Et pas uniquement la direction syndicale. Si tu veux, la responsabilité, c'est de dire tout le temps, et là, je l'ai encore entendu de la camarade tout à l'heure, ça sert à rien de manifester. Je suis désolé, moi, j'ai rien de mieux à foutre que de manifester. Moi, pourtant, je fais plein de choses. Hein, je vous assure que je fais des tas de trucs, je suis très occupé. Mais franchement, quand je vais manifester, je suis allé à toutes les manifs, j'ai rien de mieux à foutre, quoi. Plutôt que de regarder la télé ou d'aller faire d'autres trucs, je suis très bien manif. Par contre, ça dépend ce qu'on attend d'une manifestation, effectivement. Là où ça suffit pas, c'est sûr qu'on se dit, bon, ça sert à rien parce que ça suffit pas. C'est ça que ça veut dire, ça sert à rien. Ça veut pas dire, ça sert à rien d'y aller. Mais si tu veux, à force de s'auto-convaincre nous-mêmes de ça sert à rien, on finit par ce discours quand même qui est la grande victoire, par contre, du pouvoir, c'est d'arriver, effectivement, et ça on en parle dans tous nos films, mais c'est d'arriver à faire croire aux gens qu'ils n'ont pas de pouvoir et que tout est réglé d'avance, que c'est cuit, que de toute façon on ne peut rien faire, et que, bon, ben voilà, à part le grand soir, le jour où il y aura le grand soir, ben jusque-là, fermez vos gueules, il se passera rien, quoi. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a une responsabilité collective dans les gens qui font de la politique et du militantisme à colporter cette idée qui arrange très bien le pouvoir, comme quoi ça ne sert à rien. Après, je suis d'accord avec tous les gens qui me disent il faut aller plus loin.
Non mais attends, comprenons-nous, sur une grève comme celle qui aura lieu, une grève donc corpo, comme celle qui aura lieu le 27 septembre, nous on pense malheureusement que ça ne suffit pas, mais on sera en grève.
Mais je sais que vous y serez.
Mais nous, on pèse rien. Là est le problème. Alors, je propose qu'on écoute un extrait du film, justement le passage sur les caisses de grève, et ensuite un peu plus tard on pourra écouter le passage sur les directions syndicales.
Regardez bien cette carte postale. Ce sont des mineurs qui posent pour la caisse de grève. Ça date de la catastrophe de Courrières en 1906 dans le nord de la France. Le plus gros coup de grisou d'histoire. 1099 morts sous les décombres. Face à la colère de cette tragédie, qui a révélé les conditions de travail déplorables des mineurs, s'en est suivi un grand mouvement de grève. 30 000 mineurs au début, puis des grèves dans tout le pays. Clémenceau, autoproclamé premier flic de France, envoie les troupes pour mater la grève. Puis débute un grand mouvement de solidarité. 630 millions de cartes seront vendues au profit de la grève. Soit une quinzaine de cartes comme celle-ci par Français. Il aura fallu ça, des années de lutte, des mois de grève pour obtenir un jour de repos hebdomadaire. L'histoire des grèves est remplie d'histoires comme ça. Le progrès social n'a jamais été obtenu parce qu'un ouvrier avait demandé gentiment au patron ou au gouvernement de faire un geste. Les syndicalistes savent bien ça.
Moi, c'est le matin, je dirais, je viens pas que pour ça. Mais le fait d'ouvrir les courriers et de voir les petits mots, etc., ah ben c'est bon, ça rebooste, hein, ça rebooste. Hein. C'est comme si on rechargeait mes batteries à fond. J'ai le moral, il est waouh. Ah ouais, il est franchement en hausse, quoi. On a tous nos numéros, et dès qu'il y a le moindre souci, hop, ça marche par texto ou par coup de téléphone, et on arrive, on cherche même pas à le comprendre, on a beau être chez nous au chaud, bing, on arrive, quoi. Donc c'est vrai que le fait de tous se retrouver, et puis chacun met mal à la patte, l'histoire de ramener du bois, de ramener de l'alimentation, et bah, c'est tous ensemble. Bonjour.
Bonjour. Est-ce que c'est à vous?
C'est quoi ces propositions là?
On vous laisse vous coller là.
Oh là là.
Vous êtes qui?
ITélé.
Alors ITélé qui arrive, justement, est-ce que la presse n'a pas eu un rôle charognard sur ce mouvement là aussi?
Comme toujours, quoi. C'est même la définition même de la presse, quoi. Elle est là pour venir effectivement compter les cadavres, servir le pouvoir de façon plus ou moins consciente, parce que je crois pas que les petits gars ou les petits de la nana qui passent là, machin, se disent tiens, je vais aller les pourrir. C'est même pas ça l'histoire, quoi. C'est qu'en fait, il faut faire court déjà. Et ça, déjà, ça limite beaucoup le travail de terrain. Contrairement à ce que nous, on peut faire quand on fait du documentaire et qu'on reste longtemps. Eux, ils restent très très peu de temps. Donc, ils n'ont même pas le temps de tisser des liens. Et même, à la limite, surtout pas, quoi. Parce qu'on leur demande surtout de ne pas tisser des liens. Parce que sinon, tu deviens dogmatique. C'est ça les mots, hein, dogmatique, enfin, partisan. Parce que, par contre, si tu tisses des liens avec le patron d'Avas ou n'importe quoi, là, c'est pas ni dogmatique ni partisan, mais si tu tisses des liens avec des ouvriers, c'est problématique dans la presse. Et après, sur le comportement, bah, la plupart de ceux-là, quoi, parce qu'après, il y a des gens qui font leur boulot, quoi, mais dans ces chaînes-là, c'est des chaînes de charognards, donc ils se comportent comme des charognards. Mais après, il y a des gens qui font leur boulot. Moi, j'ai des copains qui sont journalistes, hein, là-bas, si j'y suis, tout ça, eux, ils font le boulot, quoi. Alors, il y a des petits mots qui passent dans le studio.
Il y a des mots qui passent dans le studio.
Parce que comme il n'y a pas de télé.
Pour dire qu'on va peut-être passer une plage musicale un peu plus tard. Mémoire des luttes de notre ami et camarade Scalpel, donc le rappeur conscient. Les ouvriers de Grandpuits, ils en sont où un an après? Parce que dans le film, dans les bonus, on les voit quelques mois après. Ouais. Et là maintenant, un an après.
Là, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'il faut que j'aille filmer encore. Mais d'un autre côté, si tu veux. C'est un moment difficile, quoi. Mais comme prévu, enfin comme prévu, si on analyse un peu ce qui se passe à chaque fois dans les histoires précédentes, quoi. Évidemment, il y a eu un coup de massue énorme. D'abord au niveau des tambouilles syndicales et du fait que bah, ça crée tellement. Mais c'est comme dans toutes les grosses aventures, quoi. Quand tu vis une aventure humaine aussi forte, hein, et tous ceux qui en ont vécu quelque part ont vécu les mêmes choses, pas que dans le syndicalisme, hein, forcément il y a une retombée derrière qui est terrible. Et cette retombée se traduit par le fait que, par exemple, beaucoup de gens sont barrés de la CGT. Parmi les gens qui sont dans le film, beaucoup sont barrés de la CGT. Des gens ont créé un autre syndicat.
Lequel?
Ah, tu vas te dire, putain, c'est peut-être la CNT?
Non, on était tellement peu présents que non.
Non, FO. Alors, tu vois, bon, ouais. Alors, c'est pas très reluisant parce que c'est pas le syndicat le plus virulent. Mais c'est terrible parce que.
Parfois, le syndicat le plus virulent sur des boîtes, c'est la CFTC. Ça peut paraître surprenant, mais.
Mais bon, si tu veux, c'est un phénomène fou, quoi. Mais si tu veux, il y a des gens qui se sont pris la tête après, quoi. Des histoires humaines, hein, qui sont comme dans toutes les familles. Et donc, du coup, ça se traduit par ça. Et comme par hasard, si tu veux, le syndicat qui pâtit le plus dans la raffinerie de la grève, ça a été le plus virulent et le plus en avant, qui menait le plus la grève. Parce qu'évidemment, ils ont vécu les choses les plus fortes, et c'est la CGT, quoi. C'est-à-dire que la CFDT, tout va bien. Mais la CGT, ils ont perdu énormément de gars qui sont allés ouvrir une autre section syndicale à côté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Je pense que c'est pas très grave, d'ailleurs, quand on ouvre des syndicats. Ce qui compte, c'est qu'à la prochaine grève, il y ait une intersyndicale. Après, que la boutique, bon, bah, c'est des histoires de boutique, quoi. Mmh. Mais en tout cas, ils ont vécu ça, donc il y a des moments assez difficiles. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu, là-dessus, c'est un peu moins encourageant que ce qu'on voyait dans le film, même 4 mois après. Même dans les bonus 4 mois après. Mais si tu veux, ce qui reste quand même très encourageant, c'est que tous les gars qui ont vécu cette histoire, quand ils en parlent, ils ont la niaque, ils ont pas du tout, il n'y en a pas un qui regrette aujourd'hui ce qu'ils ont fait, quoi. Il n'y en a pas un qui dit il fallait pas faire comme ça, il fallait pas le faire. Tous disent si on devait le refaire, on le referait, quoi.
Tu nous dis que tu vas tourner dans le sud de la France d'abord, organiser pas mal d'avant-premières avec. Des grévistes. Lesquels ?
Il y a des gars. Alors là, je suis en train d'essayer d'organiser ça parce que, évidemment, comme on le voit quand même, c'est des gens qui travaillent entre 8. Donc, effectivement, c'est pas le plus confortable pour eux d'aller se barrer très loin pour aller faire une projection. Donc là, il y a des gars, par exemple, il y en a un qui se lève à 4h du mat, il va faire sa journée, il va finir à 14h, il va prendre le train, il va venir avec moi à Montpellier, il prend son jour le lendemain, c'est super sympa si tu veux, mais ils vont pas pouvoir faire ça tout le temps, tous. Et là, en l'occurrence, le gars là qui fait ça, ça va être c'est Toff qu'on a écouté tout à l'heure dans l'extrait à la fin là, qui était très motivé, qui fait partie des gars qui sont barrés de la CGT d'ailleurs, tu vois, et qui est pas donc tu vois, ils oublient un peu ces querelles de boutique, ils viennent, il faut venir, ils viennent, ils sont venus, on a fait une projection tout de suite quand le film a été monté là. Dans leur coin, tous les gars qui sont dans le film sont venus, beaucoup de gens de l'usine sont pas venus d'ailleurs, hein, mais beaucoup des gens qui étaient dans le film, en tout cas, sont tous venus, ils étaient en pleine crise, ils sont quand même venus causer, ils ont parlé entre eux, enfin tu vois, c'est quand même, ça va quoi, c'est pas des fous. Le problème c'est que, je te dis, que se tourner autour d'un film, bon, c'est un peu compliqué, mais bon là on va essayer d'amener le maximum chaque fois qu'ils peuvent, on va essayer de les amener parce que ils ont quand même envie d'en causer cette histoire, quoi. C'est pas un truc qu'ils enfouissent. Là, à la fête de l'UMA, il y aura un des gars, Rodolphe, là, qu'on voit dans le film, qui lui est toujours à la CGT d'ailleurs.
Et le film va être projeté à la fête de l'UMA ?
Non, on ne projette pas à la fête de l'UMA, c'est trop compliqué, c'est trop bruyant, il n'y a plus d'endroit pour projeter. Enfin, il y a des endroits encore, mais c'est compliqué. Non, par contre, on fait pas mal de débats, tout ça, on y est sur les 3 jours. Et en fait, d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui passent par hasard à la fête de l'UMA de venir nous voir sur le stand des Mutins de Pangée. Parce qu'on a
alors, le stand des Mutins de Pangée, il sera où ?
Qui sera juste en face le village du livre.
D'accord.
Sur un nouveau truc qui s'appelle le forum des associations, même si on est une coopérative. Et en fait, voilà, on est là pendant les 3 jours, on fait des tas de trucs. Bon, il y a des débats, il y aura des tas de gens qui passent nous voir. Ça va être un point de rendez-vous un petit peu. Et dont notamment des gars de l'usine, quoi.
D'accord. Alors pourquoi une souscription ? Parlons un peu de diffusion, parlons un peu de sous.
Pourquoi pas ?
Et parlons un peu de.
Ouais, parlons de pognon, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, quand même. Il faut quand même dire ce qui est dans tout ce qui est fait partout, quoi. C'est quand même dans ce monde-là, il se trouve qu'il nous faut de l'argent pour faire des trucs, quoi. Et effectivement, pour faire des films, il nous faut un petit peu d'argent. Alors, il se trouve qu'on arrive à les faire sans rien au départ, quoi. Ce qui est le cas ici, puisque là, on se paye pas. Enfin, tu vois, bon, on est militant, donc on y va, on fait tout. Mais après, quand il est question de finaliser tout ça, d'essayer de le sortir en salle et d'en faire quelque chose qui soit un outil professionnel, un peu, qui soit bien diffusé, etc., ça commence à se compliquer. Et alors, sur ce film, particulièrement, on n'a pas eu la moindre aide pour l'instant, le public, bien qu'il y ait, en France, il faut dire qu'on est dans le système le mieux du monde, hein, pour le cinéma.
Alors explique-nous le CNC, justement.
Ouais, le CNC, c'est super, sauf qu'on ne l'a pas.
Non, mais...
Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma, c'est un système de subvention dont une partie est quasiment automatique quand on est dans le truc. Parce que les billets les billetteries, en fait, reversent une partie, il y a une taxe qu'on paye dessus qui est reversée à la fois pour entretenir les salles de cinéma indépendantes, une partie qui va au distributeur, une autre partie qui est redistribuée par le distributeur au producteur, etc. Tout ça fait que, bon, il y a ce qu'on appelle du fonds de soutien, c'est-à-dire que tout ça va dans une caisse c'est un système génial. Sauf que ça suffit jamais. Dans les petits films, parce que les entrées de cinéma, il y a de plus en plus de films et de moins en moins d'entrées, il faut dire ce qui est, quoi. Et donc le système de fonctionner sur les entrées commence à être compliqué, et que les aides publiques, malheureusement, on est souvent sur des films politiques comme ça, c'est difficile de les avoir pour des raisons qui m'échappent encore. Mais en tout cas, il y a une raison qui est assez évidente, c'est que beaucoup de la production documentaire dépend de la télévision, c'est même au cinéma. C'est-à-dire que la plupart des aides publiques des collectivités locales, des régions, etc., dépend d'un film qui d'abord a été préacheté ou coproduit par la télévision, sans quoi tu ne peux pas aller dans certaines commissions. Ce qui fait que ça réduit énormément le champ et ça donne un pouvoir démesuré aux diffuseurs. C'est-à-dire que les diffuseurs font la pluie et le beau temps et décident du réel et de comment il va être retranscrit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit à quel degré de dégradation est la télévision. Qu'à part quelques films qui ont fait leur carrière et qui finissent à la télé, ou qu'il y a des mecs qui sont toujours pareils, il y a des mecs très bien dans le système aussi, tu vois, c'est pas histoire de dénigrer tout. Mais finalement, ça donne quand même petit à petit un glissement. Le service public, France Télévisions, fait de la télé-réalité aussi, tu vois. Donc c'est une déresponsabilisation des politiques et de tout le monde en donnant beaucoup de pouvoir aux diffuseurs. Et ça, c'est un des problèmes qui, à mon avis, est principal. Tout ça pour quoi ? Pour te dire qu'au final, pour financer ce genre de film, si on n'a pas des souscripteurs, et là on est un peu limite quand même, parce que c'est pas assez, si on vend pas nos DVD, si on fait pas tout ce qu'on fait autour, même nos t-shirts, nos trucs, tout ce qu'on fait et que font d'ailleurs toutes les organisations indépendantes, quoi. Si on fait pas ça, on n'arrive pas à les faire, les films, même en faisant énormément, en faisant quasiment que du bénévolat quand on fait ces films-là, quoi.
Ouais, parce que vous avez envoyé aux souscripteurs le ou les films. Il y avait une petite fiche qui parlait de transparence à l'intérieur et vous expliquiez que sur 1200 DVD en souscription, vous avez au bout du compte récupéré quelques 3-4 000 euros, presque rien.
Non, c'est super parce que on va pas du tout se plaindre de ça. C'est génial qu'on ait déjà autant de monde qui nous suivent quand on fait une souscription. Après, il y a plus ou moins, on a fait des souscriptions par le passé qui sont plus ou moins énormes parce que, tu vois, par exemple, sur Chomsky, parce qu'il y avait Daniel Mermet, des gens connus, Chomsky, tout ça, et qu'on touche beaucoup plus de gens.
Alors, Chomsky et compagnie, par exemple.
Chomsky et compagnie, c'est énorme. On a pu faire des films pendant 3 ans là-dessus. C'est que tout ce qu'on a fait après, depuis Chomsky et compagnie, depuis 2008, c'est quasiment sur ça, quoi. Donc c'est sur les conséquences de ça, quoi.
Et Chomsky et compagnie, vous aviez eu l'aide du CNC ?
Alors, il se trouve que là, en plus, on a eu l'aide après réalisation qui nous a permis de tirer des copies 35.
Alors Chomsky 2 et compagnie, c'est quand ?
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, bon, ça c'est encore, je veux pas rentrer dans les trucs trop techniques parce que c'est pareil, les copies 30, les aides en fait, elles vont pas aux producteurs, elles vont au laboratoire qui tire les copies. Bon, donc tout ça est très compliqué, mais ça a été un gros succès. Là, c'est un succès bien pour un film militant, si tu veux. Ça nous a permis de sortir le DVD, surtout de l'offrir aux 200 grévistes, parce que c'était ça le but de la souscription, et de faire que le film existe et qu'aujourd'hui, si tu veux, on peut le présenter en salle, dans une version qui va être remontée qui est remontée pour les débats, parce que c'est un film il était un peu trop long pour les débats.
Donc ça sera une version de...
Je sais pas encore tout à fait de là, parce que je suis en plein montage là, mais en fait, là, il fait 1h45 et il va faire un peu moins de temps pour qu'il y ait vraiment le temps de débattre, quoi. Donc ça, si tu veux, tout ça, c'est possible grâce à la souscription, parce que c'est pas que l'argent, la souscription. C'est un peu la même histoire qu'avec Grand Puits, quoi. C'est que c'est un soutien énorme de sentir que t'as des gens derrière qui te font confiance et qui te disent, vas-y, ok, fais un film. Moi, il y en aurait que 100, déjà, c'est pas mal, quoi. Tu vois, tu trouves 100 potes qui te disent, vas-y, c'est bien ce que tu fais. C'est génial. Ça te donne envie de le faire. Et c'est quand même, il faut pas oublier que c'est ça aussi quand on fait des trucs. Les gens oublient des fois, même entre nous, quand on fait des trucs, on oublie de se dire, oh, putain, ton groupe, il est super, t'as fait un truc, c'est pas mal, machin, tu vois, c'est pas mal que ça existe, quoi. Tu sors des bouquins, Libertalia, vous sortez des, enfin, ils sortent, c'est pas toi, sortent des bouquins, tout ça, si tu veux, tout ça, c'est formidable que ça existe parce qu'il y a cette énergie-là et parce qu'il y a, à un moment donné, il y a ce soutien-là, quoi.
Mais justement, tu peux nous parler des Mutins de Pangée ?
Les Mutins de Pangée, c'est une coopérative, déjà assez rare, parce que dans le cinéma, il n'y en a pas beaucoup qui sont coopératives, il n'y en a pas d'autres, quoi, qui font coopérative de production, de distribution et d'édition de DVD. Et nous, c'est un choix qu'on a fait parce que simplement, on a une histoire dans la vie associative, dans tous les gens, les fondateurs de Mutins, on est par ailleurs, avant, on a été fondateur aussi de Zaléa TV, qui était une télé associative. Et par ailleurs, avant, on avait fait aussi beaucoup de choses en télé locale, etc. Ce qui fait qu'on avait un long parcours déjà dans le monde militant associatif. Et donc, naturellement, quand on s'est dit, il faut faire, maintenant on va se consacrer à la production, c'est-à-dire qu'on a arrêté plus ou moins Zaléa, quoi. Mmh. On s'est
plus
dit.
Moins, un peu plus que moins d'ailleurs.
Non, mais parce qu'on a commencé avant que ce soit fini, Zaléa. Mais quand Zaléa était fini, on a pu se consacrer entièrement à ça, quoi.
Et donc vous êtes combien dans cette coopérative?
En fait, on n'est pas nombreux parce que, en fait, on était. Quand on bossait avant à Zaléa, on bossait pas, c'était une activité totalement bénévole et on avait des boulots dans le cinéma. Mmh. Donc on a continué à garder, moi j'ai arrêté toutes mes activités dans le cinéma et dans la télévision, mais on garde encore des boulots extérieurs quand même, des fois de par exemple d'enseignement, quoi, de formation, etc. On a essayé de réunir un peu, d'arrêter cette schizophrénie qui faisait qu'on avait un pied dans l'industrie pour se payer le monde associatif, quoi. Et ça a été ça pendant 20 ans pour nous, pour 15 ans, quoi. 15 ans, 10 ans. Et maintenant, on a essayé de réunir les deux, c'est difficile parce qu'on fait à la fois, on gère quand même une boutique, quoi. Mmh. On gère quand même un truc qui ressemble à de l'artisanat, à du petit commerce direct, mais nous on n'a pas de problème avec ça, moralement.
Non, il n'y a pas de problème.
Mais c'est un peu comme
le garant de l'indépendance.
Voilà, un peu comme tous les éditeurs, si tu veux. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, quoi. De gérer tout le reste, en dehors de faire des films.
Donc vous faites de la production, vous diffusez également d'autres structures.
Alors chaque fois qu'on peut. C'est-à-dire qu'on en est où? Nous, on a monté cette boîte pour se consacrer, comme on a fait des années de diffuseurs, où on a aidé d'autres à montrer leurs trucs. Là maintenant, on s'est dit, bon, mais nous, on a des trucs à dire, on commence à avoir une certaine expérience dans le métier, on a quand même beaucoup de métiers dans la fabrication des choses, on va produire nos films. Donc on a fait ça au début comme ça. Et puis comme on est toujours tenté par ce truc-là, on voit des trucs géniaux, tu vois, qu'on voit et qu'on dit qu'ils sortent pas, chaque fois qu'on a un peu les moyens, c'est-à-dire que chaque fois qu'il reste un peu, plutôt que d'attendre le garder ou quoi, on le balance dans de l'édition. Et donc en général, ou on rentre en coprod sur un film pour l'aider à le finir, tu vois, ce qui était le cas de par exemple du film de Pierre Karl, Fin de concession, ou en distribution, tu vois, on a filé un coup de main sur mourir plutôt crever, tu vois, ou alors on édite, quoi. Par exemple là on sort ce mois-ci un film que nous on trouve génial parce que c'est un film culte pour nous, qui est Carbone 14 le film, sur la radio libre des années 80, qui était une radio qui a marqué beaucoup de gens et toute une génération. Et ça, par exemple, ça faisait 10 ans que je tannais le réalisateur Jean-François Galotte, qui est un copain, pour qu'on édite ce film en DVD, mais à l'époque on n'était pas éditeur. Et là, ça, depuis qu'on a commencé à faire l'édition au Mutin, ça fait des années, je lui dis, mais il faut qu'on sorte ce film Carbone et tout. Et il me dit, oh non, c'est trop compliqué, il y a la fesse, il va pas vouloir, il y a machin qui veut pas. Et finalement, on a réussi, on a fait restaurer le film et tout. Et donc, le film sort en DVD. Je sais pas si ça sera un succès,
Il sort en DVD dans combien de temps?
Là, il sort en novembre, il est déjà en pré-vente pour nos souscripteurs, là, mais il sort en novembre. Et c'est un truc, ça fait 20 ans que, moi, c'est un film culte pour moi. Donc ça fait partie des envies qu'on arrive à continuer. Il y a plein d'autres projets comme ça.
Si on récapitule, au catalogue des Mutins de Pangée, dans le catalogue on trouve quoi? Dans les productions strictement Mutins de Pangée.
Dans les films qu'on a fabriqués nous-mêmes, qu'on a produits intégralement, réalisés, machin, il y a Je déboule à Kaboul, qui est un film que j'ai fait il y a un moment en Afghanistan, il y a 10 ans, en fait, là, d'ailleurs, c'était vraiment juste après le 11 septembre. Après, il y a un film, il y a Chomsky et compagnie, qui a été quand même notre film gros succès en 2008. Puis la suite, parce qu'on a fait la suite, en fait, elle est déjà dans le DVD. Ça s'appelle Chomsky et le pouvoir. T'as pas entendu parler, mais... Et puis, il y a Bernard ni d'une ni chaussette, qui est un film qu'on a beaucoup parlé ici, parce qu'ici, on est invité régulièrement. Bernard Nidieu Nichoset, qui a tourné dans les salles et qui tourne encore, hein, ça fait plus d'un an, sur un gars qui dit des textes de Gaston Couté. Donc là on est vraiment dans la culture libertaire, qui continue. Nous on l'aborde par plusieurs angles. Et puis on a pas mal de trucs en fabrication là. Je peux pas tout dire parce qu'il y a des trucs que ça porte malheur, même si je suis très rationaliste. Il y a des trucs qu'il faut pas dire tant que c'est pas encore assez avancé. On a beaucoup de trucs en chantier, en fait.
Il y a beaucoup de chantiers,
ouais, et les chantiers sont très longs. Et c'est ça le propre de ce genre de boulot, quoi. C'est qu'on fait pas des trucs. Celui-là, c'est franchement Grand Puits, c'est le film que je le fais le plus rapidement de ma vie, quoi. Mais ça fait un an quand même. J'ai jamais bossé aussi vite. Mais en général, les films, ça fermente, ça dure, ça reste. C'est des trucs que tu portes pendant 2-3 ans. Mais c'est pas propre à nous, hein. C'est vrai pour tous les gens qui font le boulot sérieusement, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça qui nous porte, c'est l'envie de à la fois de fabriquer des films, de les faire. On fait du reportage aussi, hein, des fois, des trucs qu'on met plus vite en ligne, etc. Et puis l'envie aussi de faire des fois découvrir des trucs qu'on aime bien et qui n'existent pas, quoi. C'est un peu ça notre catalogue. Donc dans les films qu'il y a, on a plein de trucs en projet qui vont sortir, mais ça dépendra un peu de comment marche le reste, quoi. Parce qu'on est quand même
Là, il y a Carbone 14 de façon.
Là, ça, c'est la sortie, c'est sûr. Il est là, quoi. Là, il est, on l'a dans les mains, donc on est sûr qu'il sort.
On va peut-être passer une plage musicale. Greg.
Ouais, juste avant, tu parlais de souscription. Concrètement, comment est-ce que ça peut se passer si on veut soutenir les Mutins de Pangée?
Ah, c'est sympa de poser la question. Veut soutenir les Mutins de Pangée, donc le plus simple, c'est quand même d'aller, ceux qui ont internet, c'est le plus facile. Hein. Désolé ceux qui l'ont pas. C'est lesmutins.org. Donc ça, c'est le site qui est en train de... D'ailleurs, qui refait... Il va tout refaire à neuf cette semaine, d'ailleurs. Et donc là, il y a tout le catalogue et tout ça. Sinon, bon, ça peut se faire par la poste, par tout ce que vous voulez. Mais bon, allez là-dessus, c'est là qu'il y a les infos. Et puis vous verrez un peu le reste, quoi.
Donc si on veut voir Grand Puy et Petite Victoire, puisqu'on ne peut plus l'acheter en souscription, la prochaine date parisienne...
Là, je peux pas te dire. Ça va être novembre, c'est sûr, mais je peux pas te dire la date exacte.
Pour l'instant, on a Montpellier.
Ouais, là, c'est Montpellier le 6, un peu en enchaîne. Ouais, 6 octobre. On est vraiment un an après la grève, donc on voulait vraiment marquer ça. Après, il y a Béziers dans la foulée, Perpignan. Je sais qu'après, on va passer dans un festival qui s'appelle à la Bastide Rouet-Rouge. Je suis très content d'y aller. C'est dans l'arrière-pays, dans le Tarn, dans le Languedoc-Roussillon. Après, on va du côté de Toulouse, de Figeac, de Decazeville, aussi ville importante historiquement.
La ville des mineurs.
On va à Lavelanet, par exemple, qui est un endroit super aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est des endroits qu'on commence à connaître, parce que maintenant qu'on tourne depuis quelques temps avec nos films, on revient souvent aux mêmes endroits, en fait. Et ça, c'est aussi la preuve que, d'abord, il y a une fidélité chez les programmateurs, et il y a un truc, quoi. C'est qu'ils ont compris que, voilà, ils nous font plus facilement confiance. C'est plus facile. Si, paradoxalement, l'économie est de plus en plus compliquée dans le cinéma, pour nous, en tout cas, il y a quand même cette compensation-là, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent et qui ont envie de nous faire venir dans leur cinéma, quoi. Ça, c'est cool.
Alors, un dernier mot. Donc, si on veut se procurer... tous vos films, tous vos DVD et ceux de vos copains, si je résume, on va sur le site www.lesmutins.org, les mutins c'est attaché. Il y a un passage sur le piratage au tout début de la souscription. Enfin, au tout début, pardon, du film.
En plus, on est des mutins, nous. Alors,
Vous êtes des mutins et il y a un petit passage sur les pirates. Tu nous expliques ça?
Tu veux que je fasse en 2 minutes?
En 2 minutes.
Ok. Écoute, le piratage, nous, on n'a rien contre, mais il ne faut pas appeler ça comme ça, en fait, en vrai dire. Mais l'échange de fichiers, l'échange de films, tu t'achètes un DVD, tu le montres à tes copains, tu fais ce que tu veux, d'ailleurs, tu le pirates, tu le mets sur Internet. Ok, pas de problème. La seule chose, c'est qu'on explique aux gens, si vous voulez qu'on continue, c'est pas en faisant ça qu'on continue. C'est bien de faire connaître notre travail, mais la seule chose qui fait qu'on continue, c'est que vous pouvez nous filer le fric pour continuer. Parce que si on n'a pas le fric pour continuer, on ne peut pas tourner, quoi. Donc c'est le seul discours qu'on a là-dessus. C'est pas un discours moral, c'est pas de dire c'est pas bien, c'est pas de dire... Tu vois, moi, personnellement, c'est vrai que je pirate pas, à part des fois Warner et... je peux pas aller enregistrer, pirater le film d'un copain. Bon, d'abord, ils nous les filent, les copains, mais... mais c'est vrai que, bon, je me dis quand même toujours, tu vois, ça me ferait chier de voler un bouquin. Je sais qu'il y a des éditeurs qui disent ça, mais moi, ça me fait chier de piquer un bouquin de Libertalia sur sa table, quoi. Ça me fait chier. Parce que sais que...
Les éditions, c'est NTRP, mais ils sont trop chers. Donc,
ouais, donc même si c'est trop cher, si tu veux, je sais que le boulot qu'il y a derrière. Alors, je trouve que souvent, il se trouve que les gens qui piratent tout ça, machin, savent pas le boulot qu'il y a derrière. Ou alors, ils ont vraiment pas les ronds. Et là, allez-y, quoi. Mais si vous voulez, si tu veux, le truc, c'est qu'il faut le faire en toute conscience, quoi. Et pas comme un discours politique revendicatif en disant, en piquant les Mutins de Pangée, je fais un acte, c'est cool, c'est pire. Non, c'est pas vrai, c'est pas pareil. Parce que nous, on arrive à sortir des DVD moins chers que les grosses machines qui sortent dans le commerce. C'est-à-dire qu'un film qui sort, c'est 20 €, un film qui sort d'Hollywood. Tu vois, par exemple, il y a un film qui sort, là, c'est 200 000 exemplaires. Nous, on arrive avec nos DVD, on arrive à faire moins cher. Mais donc, si tu veux, voilà, c'est de ça que je parle, surtout quand on dit, c'est pour ça qu'on met toujours un petit mot. On fait beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens que on tient grâce à ça, quoi.
Donc, Grand Puy et Petite Victoire, l'apprentissage de la lutte, un film de Olivier Azam, production Les Mutins de Pangée. Pour avoir plus d'infos, il faut évidemment passer sur le site des Mutins, lesmutins.org.